parole du jour avec le Père Willem.
Vous êtes le sel de la terre. Parole de Jésus en Matthieu, chapitre 5, verset 12. Entré dans un temple protestant, le dernier dimanche d'octobre, c'est accéder aux éléments qui permettent de comprendre le protestantisme. C'est le 31 octobre 1517 que Martin Luther, qui a vécu de 1483 à 1546, un moine augustin, afficha 95 thèses contre les indulgences à Wittenberg, une ville de Saxe qui porte aujourd'hui le nom de ce théologien. C'est ce geste inaugural que le protestantisme a conservé dans sa mémoire collective plutôt que le jour où le même Martin Luther a brûlé la bulle papale, l'excommunion de l'Église romaine. Cela dit bien l'esprit réformateur et non schismatique qui a conduit le protestantisme dès ses origines. Se débarrasser de ce qui encombre, de ce qui entrave la démarche religieuse et favoriser une spiritualité qui renouvelle la vie. Martin Luther et Jean Calvin, qui a vécu de 1509 à 1564, pour ne parler que des deux figures les plus emblématiques du geste réformateur du XVIe siècle, auraient très bien pu se contenter de leur vie confortable, tout simplement. Ils ont pourtant refusé l'ordre du monde qu'ils avaient sous les yeux. Ils ont refusé de laisser les croyances en l'état, eux qui avaient pris conscience qu'il était possible d'être plus fidèle aux intuitions des rédacteurs bibliques et d'être plus proche des aspirations que chacun ressent au plus profond de lui-même et que la théologie essaie d'exprimer. Ils ont été des grains de sel par leur époque, grattant le vernis religieux qui s'était accumulé au cours des siècles afin de retrouver l'élan de la spiritualité et d'en ressusciter la saveur. Protester contre ce qui dégrade la spiritualité. Protester pour la grandeur de Dieu. Voilà l'effort inlassable que les réformateurs ont laissé en héritage et qui s'incarnera dans des œuvres, des événements, des mouvements d'ampleur variable. Entrer dans un temple le dernier dimanche d'octobre, c'est donc entrer dans le lieu où s'actualise la dynamique de la réforme, où s'élabore l'esprit du protestantisme. Ce qui frappe, c'est l'inquiétante familiarité du lieu. On y retrouve des éléments semblables au lieu de culte catholique, mais l'intérieur est dépouillé, sinon austère. L'officiant est revêtu d'une robe noire qui fait penser à un avocat plutôt qu'à un célébrant. Le déroulement de la célébration est rythmé par des étapes dont la plupart sont communes aux offices chrétiens, mais dont la tonalité et le contenu varient. Il y a une part de dépaysement de ce qui apparaît pourtant clairement comme un paysage religieux chrétien, et bien regardé, cela ressemble à de la religion sans excès de religion. Profitons d'une célébration pour découvrir cette spiritualité. Quatre points remarquables. La Bible, qui est un point central du temple, au même titre qu'elle est centrale dans la vie de foi du protestant. Puis la prière, qui revient à plusieurs moments de l'office, de même qu'elle émaille la vie spirituelle des fidèles. L'architecture du lieu, sa disposition sont également significatives de ce qu'est être protestant. Enfin, ce qui pourrait être perçu comme anecdotique les annonces qui renvoient à la partie souvent immergée du protestantisme, les œuvres, le christianisme pratique. Voici l'occasion de découvrir comment il est possible de penser et croire en toute liberté. Si nous devions retenir qu'une seule chose de notre visite d'un temple, c'est la place principale de la Bible, généralement posée, ouverte, sur la table de communion qui se trouve à un point central de la salle du culte. La Bible est au cœur de la célébration protestante. C'est sa lecture qui provoquera la prédication, le moment le plus important du culte. Aussi bien par le temps qui lui est consacré que par la valeur qu'on lui accorde, le prédicateur est le plus souvent en chair, dans cette tribune élevée qui lui permet d'établir une relation interpersonnelle avec l'ensemble des personnels venus à l'office. Cette place prédominante est aussi bien pratique, être vu pour être entendu, voir pour ajuster la prédication aux réactions de l'auditoire. Symbolique, la centralité et la hauteur expriment la haute considération qui est dévolue à la lecture de la Bible et à son interprétation par le prédicateur. Il est donc juste de dire que l'essor du protestantisme se fit grâce à l'invention de l'imprimerie qui permit une diffusion massive des idées de la Réforme. Que le premier livre imprimé fut une Bible indique la place capitale qu'occupait le texte biblique à l'époque de Gutenberg. Cet ouvrage de référence fut au cœur de la Réforme qui lui avouait une histoire d'amour. Oui, une histoire d'amour qui s'écrit aujourd'hui encore de fort belle manière. C'est dans la Bible que le moine Martin Luther, chargé d'enseigner les Écritures saintes, va trouver le ressort de sa protestation contre la mainmise de l'Église sur le salut des personnes. Son opposition au commerce des indulgences qui permettait d'acheter sa place au paradis se fonde sur la lecture de l'épître de Paul aux Romains. L'apôtre Paul y écrit que tous ont péché, mais que tous sont justifiés gratuitement par la grâce divine. Voyez de Romains, chapitre 3. Cette découverte de Luther va profondément changer la religion chrétienne, non seulement sur la question de la théologie de la grâce, qui remplace une théologie des œuvres, mais sur la question du rapport au magistère, à l'institution, à la tradition. En conservant de ce geste inaugural le principe sola scriptura, l'Écriture sainte, les héritiers de Luther ont relativisé l'autorité de l'Église, de son clergé et des conciles successifs. Ce principe ne signifie pas que la Bible doit être le seul ouvrage qu'un protestant puisse lire. Ce principe affirme l'autorité spécifique de la Bible en matière de foi. Et surtout, il affirme que c'est la lecture personnelle de la Bible qui prévaut. La Bible seule propose un face-à-face direct entre le croyant et les sources scripturaires, sans l'intermédiaire de l'Église qui détiendrait la bonne interprétation. En la matière, le magistère n'est plus l'affaire du clergé, chaque croyant étant à même de se savoir du texte pour entrer dans un dialogue fructueux pour sa propre foi et sa compréhension du monde. »